Quand les tests génétiques se sont démocratisés, ils ont permis à tout un chacun de découvrir son héritage. Mais à la lumière de cette histoire, on comprend que cela revient aussi parfois à ouvrir une boîte de Pandore, pleine d'horribles et terrifiants secrets qu'on aurait préféré ne jamais connaître.
Je suis née en 1957 et j'ai grandi à Stoughton, dans le Massachusetts, qui est l'endroit le plus idyllique dans lequel on puisse grandir. C'est une petite ville ouvrière, à mi-chemin entre Boston et Cape Cod. Et quand j'avais 18 ans, j'ai été élue Miss Stoughton, le 1er mars 1976.
Cathy Gilchrist a été adoptée à 6 mois par Jack et Norma Sidebottom, et elle a un frère, lui aussi adopté, John.
J'ai eu une enfance merveilleuse. Mes parents étaient vraiment des gens simples et bons.
Pendant très longtemps, Cathy Gilchrist ne cherche pas à savoir qui sont ses parents biologiques, ni d'où elle vient.
À une époque, j'ai envisagé d'essayer de retrouver mes parents biologiques. Mais j'étais très prise par mon travail de prof d'art dramatique et par le théâtre en amateur. Alors j'ai remis ça plus tard. Mais en 2017, j'ai pris ma retraite. Et je me suis dit que j'allais enfin avoir du temps pour moi. Et que c'était peut-être le bon moment pour essayer de retrouver mes parents biologiques. Donc, j'ai fait un test ADN sur Internet. Et grâce à ça, j'ai retrouvé ma cousine Suzanne. C'est ma cousine au troisième degré. Et on est devenus tout de suite très proches. Elle m'a proposé de m'aider à retrouver mes parents biologiques. Et je lui ai donné mon feu vert.
Suzanne parvient à retrouver la mère biologique de Cathy, qui à cette époque est très malade. Elle a eu d'autres enfants, et les demi-frères et demi-sœurs de Cathy lui demandent de ne pas essayer de contacter leur mère pour ne pas la contrarier.
Ils étaient très loyaux envers leur maman, comme il se doit. Mais aucun d'eux n'avait envie de l'interroger sur son passé. Et il a fallu que je l'accepte.
Cathy respecte leurs souhaits et décide donc de chercher son père biologique.
Malheureusement, les archives de l'agence d'adoption n'avaient rien sur mon père biologique. Ça a été très difficile de faire bouger les choses. Mais finalement, Suzanne m'a appelée et m'a dit « J'ai trouvé ton père ». Et pour plaisanter, j'ai dit « Oh, il est célèbre ?» Et là, elle m'a dit « Tu ferais mieux de t'asseoir ». Et à ce moment-là, je ne m'attendais vraiment pas à ce que j'allais découvrir.
Le 2 mars, aux alentours de 12h45, un garde forestier qui patrouillait dans une zone extrêmement isolée de Caroline du Nord a aperçu de la fumée qui s'élevait des broussailles, à bonne distance de là où il se trouvait. Quand le garde forestier arrive à l'endroit d'où vient la fumée, il n'en croit pas ses yeux. Il y a une pelle, une bouteille de gaz et une tombe creusée dans le sol. Et dans cette tombe, il y a des cadavres. Ce sont deux femmes, une d'un certain âge et l'autre plus jeune. C'était vraiment une scène horrifiante. Les gardes ont appelé le bureau du shérif. Une fois le feu éteint, les deux victimes ont été retirées de la tombe. Et là, ça a été le choc. Parce que sous ces deux cadavres, il y avait trois enfants. Ils étaient morts, mais leurs corps n'étaient pas aussi calcinés que ceux des deux femmes. Donc, les enquêteurs ont pu voir qu'ils portaient encore leurs pyjamas et qu'ils étaient enveloppés dans des draps et dans une bâche. C'était des garçons. Et ça ne faisait aucun doute quand on les voyait qu'ils étaient de la même famille. Ça dépasse l'entendement. 5 cadavres, dont des enfants. C'est rarissime dans une carrière de policier de tomber sur ce genre de scène de crime. Les dépouilles ont été transportées chez le médecin légiste du comté de Tyrol pour déterminer la cause de la mort.
La première chose à faire avant de pouvoir démarrer l'enquête, c'est d'identifier les victimes. Ils commencent donc par chercher des indices sur place.
Ils ont passé la zone au peigne fin. La bouteille de gaz provenait du magasin Sears. Il y avait aussi une empreinte laissée dans le sang sur la bouteille. Elle a été relevée. Et il y avait une étiquette sur la pelle sur laquelle était inscrit POCH, P-O-C-H, bricolage, ce qui était probablement le nom du magasin où elle avait été achetée. Mais mis à part les cadavres, c'est tout ce qu'il y avait. Le médecin légiste a fait passer cette affaire en priorité et il a pu déterminer immédiatement que la cause de la mort était un traumatisme contondant à la tête pour toutes les victimes. Il a également pu confirmer que les blessures étaient récentes, c'est-à-dire qu'elles avaient été infligées dans les 24 heures précédant la découverte des corps. Le bureau du shérif du comté de Tyrol a fait diffuser un avis au comté voisin leur demandant s'il y avait eu des signalements, la semaine précédente, de disparition d'enfants ou de familles, afin de tenter d'identifier ces victimes.
Les enquêteurs se concentrent également sur l'étiquette POCH bricolage de la pelle. Ils épluchent le registre des commerces de la région et trouvent un magasin POCH à 480 km de l'endroit où les corps ont été découverts.
Il y avait un magasin de bricolage POCH à Potomac, dans le Maryland. Les enquêteurs ont bien pu confirmer que la pelle venait effectivement de ce magasin. Mais à part ça, le gérant a été incapable de leur dire si elle avait été vendue la veille ou un autre jour, ou de leur fournir plus de détails sur le sujet.
Parmi les indices intéressants retrouvés, il y a les étiquettes sur les vêtements des femmes portant le nom et l'adresse d'un magasin à Chevy Chase, dans le Maryland, près de Washington. Et le magasin de bricolage POCH se trouve à Potomac, à une quinzaine de kilomètres.
Étant donné ces localisations, la police estime que la famille vient de la région de Washington. Mais après vérification, il n'y a eu aucun signalement de famille disparue dans le Maryland.
Non seulement aucune famille n'a été portée disparue dans le Maryland, mais il n'y en a pas non plus en Caroline du Nord ou dans les États voisins.
Comment une famille entière peut-elle disparaître sans que personne le remarque? C'était choquant pour les enquêteurs.
6 jours après la découverte des corps, une femme résidant à Bethesda contacte la police parce que ses voisins ont disparu depuis une semaine.
La famille Bishop n'avait pas ramassé son courrier ni son journal depuis une semaine. Et ce n'était pas dans ses habitudes.
Cette voisine inquiète prévient la police du comté, qui vient faire une visite de contrôle.
Quand le policier est arrivé sur place, la voisine avait un double des clés de chez les Bishop, ce qui leur a donc permis de pénétrer dans la maison.
Ils n'ont pas eu besoin d'aller bien loin avant de découvrir ce qui était de toute évidence une scène de crime. Il s'était passé quelque chose de terrible.
Vous savez, le problème avec les tests ADN, c'est que vous risquez de découvrir des choses qui ne sont pas forcément reluisantes. En ce qui me concerne, j'ai appris que j'avais un lien de parenté avec les Bishop, qui ont disparu de chez eux le 1er mars 1976.
C'est leur maison. Vous savez, quand on est adopté, on a une famille. Et on ne pense pas vraiment au fait qu'on a un lien génétique avec d'autres personnes. Dans mon cas, des gens qui ont été assassinés. Mais le fait de voir leur maison, ça rend les choses vraiment concrètes et il faut que je m'y habitue. Je pensais que je voulais la voir, mais maintenant, je n'en suis plus aussi sûre.
Quand le policier a ouvert la porte de la maison des Bishop, il a vu, dans l'entrée et à gauche, tout de suite en entrant dans le salon, une grande quantité de sang. Il a donc commencé à faire le tour des chambres, où de toute évidence, il s'était passé quelque chose d'horrible. Dans une chambre, il y avait un lit simple avec du sang sur les draps, les couvertures et sur les murs. Dans une autre chambre, il y avait des lits superposés et il y avait du sang sur les deux lits, sur le mur et sur le plafond. Mais il n'y avait pas de cadavre. La maison était vide.
Les membres de la famille Bishop qui ont disparu sont William Bradford Bishop Jr., 39 ans, sa femme Annette, 37 ans, leurs trois fils, William Bradford Bishop III, 14 ans, Brenton, 10 ans, et Jeffrey, 5 ans. Également disparue, la mère de Bradford Bishop, Lobelia, 68 ans. Le père, Brad Bishop, travaille pour le département d'État au service extérieur.
C'était un homme très brillant. Il parlait plusieurs langues et avait été en poste dans différentes ambassades, en Afrique et aussi en Europe.
Le dernier pays où ils ont vécu est le Botswana, avant que Bishop ne soit rappelé aux États-Unis, dans la région de Washington, où il est cantonné à un travail de bureau.
Une fois rentrés au pays, leur côté cosmopolite ne passe pas inaperçu. Et le fils aîné, Brad Bishop III, est très fier de son éducation hors normes.
Brad est arrivé à mon collège en troisième. Il se démarquait totalement de tout le monde parce qu'il portait des chemises bariolées avec des gros imprimés africains et il nous racontait où il avait vécu, ce qu'il avait fait. Et pour un garçon aussi jeune, tout ce qu'il racontait était incroyable. Brad était gentil, adorable, mais c'était un vrai pitre. Il racontait des blagues. On s'est tout de suite bien entendus, on s'aimait bien. Alors on est sortis ensemble. Sortir ensemble, ça voulait dire se tenir par la main et danser des slow ballads. C'était très innocent et c'était chouette. Quand notre relation a pris fin, on est restés amis. Et quand j'allais chez eux, Madame Bishop était adorable, gentille. C'était une très bonne mère qui adorait ses enfants. Elle était très gentille avec moi. Les frères de Brad étaient aussi adorables que lui. Blond, mignon, très gentil. Et surtout le petit dernier, très espiègle.
J'ai rencontré Jeffrey Bishop au début de l'automne 1975. Je venais tout juste d'avoir 4 ans. Et on est devenus super copains. On s'entendait bien. Je me souviens que je l'invitais à venir aux soirées spaghetti de la paroisse avec moi. Je me souviens aussi qu'on jouait ensemble dans le bac à sable de l'école de Bannockburn.
Toutes les mamans se relayaient pour travailler à l'école. C'est comme ça que j'ai rencontré la mère de Jeffrey, Annette. Elle était très gentille. C'était vraiment une femme délicieuse. C'était une touche-à-tout, une artiste. Elle était très cultivée. C'était une femme adorable. Je l'aimais beaucoup.
Pour moi, c'était l'exemple type de la famille parfaite. Très heureuse.
Une fois que l'information a été transmise à Washington, que les Bishop avaient disparu et qu'on avait découvert une scène de crime sanglante chez eux, l'information est parvenue jusqu'en Caroline du Nord.
D'après la police, les cinq corps retrouvés la semaine dernière enterrés près de Columbia, en Caroline du Nord, sont ceux de la mère, de l'épouse et des trois fils d'un employé du département d'État. Ils ont été tués dans le Maryland, puis transportés en Caroline du Nord.
C'était bien les Bishop, à l'exception du père, William Bradford Bishop, qui était porté disparu.
J'étais dans ma chambre et mon père est venu me dire « J'ai une mauvaise nouvelle ». Et il a dit « Brad et sa famille sont morts ». Je me suis mise à pleurer. Je suis sortie et je suis allée chez ma meilleure amie, Sherry. Et on est allé chercher une autre amie et on a toutes fini réunies chez l'une d'elles. On n'en revenait pas.
La police de Montgomery a été alertée par des voisins inquiets de ne plus voir la famille. La police a fouillé la maison près de Potomac et, après vérification auprès de la Caroline du Nord, a confirmé que c'était bien le lieu du crime.
Ça a été un énorme choc de découvrir que ce genre de choses pouvait arriver.
Il nous manque. C'était des gens bien. Des gens très bien.
En 1976, bien sûr, tout le monde a été horrifié par ce crime. Ça a traumatisé tout le comté.
Et Monsieur Bishop ?
Monsieur Bishop, pour l'heure, on ignore où il est, il a disparu.
Il est suspect ?
Nous n'avons pas de suspect pour l'instant.
Aux infos, ils ont montré toutes les chambres maculées de sang et l'entrée de la maison. Et c'était surréaliste.
Il y a des traces de sang qui vont de la maison à l'emplacement de la voiture.
Plusieurs voisins ont dit aux enquêteurs que le break Bordeaux de la famille avait également disparu.
Un signalement a été envoyé à tous les postes de police concernant ce véhicule.
Toutes les forces de police sont à la recherche de ce break. La grande question est-ce que Brad est une victime ou un meurtrier en fuite ?
La police souhaiterait pouvoir interroger M. Bishop, mais n'a pour l'heure désigné aucun suspect.
Tandis que la police essaie de comprendre ce qu'il est advenu de Bishop, elle trouve des indices troublants sur les deux scènes de crime.
Quand la maison des Bishop a été fouillée, la police a relevé des empreintes. Et ces empreintes ont été comparées à celles retrouvées sur la bouteille de gaz. Et celle-ci était identique à une des empreintes retrouvées dans la maison. On savait que Bishop avait fait l'armée et que l'armée avait pris ses empreintes. Donc la police les a récupérées. Et l'empreinte retrouvée dans la maison, celle sur la bouteille de gaz et celle de l'armée, correspondaient bien toutes à Bradford Bishop.
La police comprend alors que Bradford Bishop n'est pas une victime, mais vraisemblablement le meurtrier.
Ça a été un véritable choc pour toutes les personnes qui enquêtaient sur ce crime horrible. Comment peut-on déjà faire ça à un autre être humain ? Mais là, en plus, à cinq personnes qui se trouvent être sa femme, sa mère et ses enfants. C'était très dur à concevoir.
En 2018, j'ai appris que je faisais partie de ce grand mystère. Ma cousine Suzanne m'a annoncé que mon père biologique était William Bradford Bishop. Et j'ai appris que, le 1er mars 1976, au même moment où j'étais couronnée Miss Stoughton, il avait assassiné sa femme, sa mère, ma grand-mère et ses trois fils. Puis qu'il avait brûlé leurs cadavres. J'étais totalement horrifiée. J'avais la gorge serrée. Il n'y a pas de mode d'emploi pour vous expliquer comment vous êtes censé réagir. Mais la boîte de Pandore avait été ouverte et je voulais savoir ce qu'il était devenu après avoir pris la fuite.
Bradford Bishop Jr. est recherché pour les meurtres de sa mère, sa femme et ses trois fils.
Quand la police a dit que c'était lui, je voulais pas croire qu'un père puisse faire ça. Je pensais qu'on l'avait enlevé.
Les gens ne parlaient plus que de ça. Et un jour, Andrew est rentré de l'école et m'a demandé « C'est son papa qui a fait du mal à Jeffrey ?» Et je lui ai dit « C'est ce qu'on raconte, mais je n'y crois pas. Je ne crois pas que ce soit son papa qui ait fait ça. Je n'arrivais pas à concevoir qu'un être humain, en particulier quelqu'un que j'avais connu, ait pu faire une chose pareille. »
D'après certains de ses voisins, qui le connaissaient bien, il voulait donner l'image de quelqu'un de riche, faisant partie de la jet set, un genre de James Bond, et il détestait son travail de bureau. Les enquêteurs ont appris qu'il était suivi par un psychiatre pour une dépression et qu'il était sous antidépresseur.
Visiblement, il avait mené une vie pleine de faste à l'étranger. Et passer de ce style de vie au petit train-train de Bethesda et au travail de bureau, ça a dû être une transition très difficile.
À en croire ses collègues, Bishop espérait avoir une promotion qui lui aurait permis de retourner à l'étranger. Mais le jour des meurtres, il a appris que le poste revenait à quelqu'un d'autre.
À 17h30, le lundi 1er mars 1976, Bishop a dit à son chef qu'il ne se sentait pas bien et qu'il rentrait chez lui.
Quand l'info a été diffusée, une caissière du magasin Sears s'est présentée à la police et a déclaré que Bishop était venu au magasin le jour des meurtres.
Bishop a été vu chez Sears, au centre commercial, où il a acheté la bouteille de gaz qu'on a retrouvée près des cadavres, en Caroline du Nord. Il a également acheté un gros marteau. Après être allé chez Sears, il a été vu à la pompe à essence Texaco, à côté du centre commercial, où il a fait le plein du break Bordeaux et a rempli la bouteille de gaz. Après ça, un voisin a déclaré l'avoir vu sortir de sa voiture et rentrer chez lui à 18h30. Et c'est la dernière fois que Bishop a été vu dans la région.
La police lance une chasse à l'homme. Et très vite, elle trouve un indice qui la met sur la piste de Bishop.
Les enquêteurs ont découvert que Bishop avait utilisé sa carte de crédit dans un magasin de Jacksonville, en Caroline du Nord, à 2 heures de route de l'endroit où on a découvert les corps à Tyrell. Le gérant du magasin a confirmé que c'était bien lui qui était venu acheter une paire de tennis. Il est ressorti du magasin, est monté dans un break Bordeaux et il est reparti. Pourquoi n'avoir acheté qu'une paire de tennis? Ce n'est qu'une hypothèse, mais les chaussures qu'il portait étaient probablement maculées de boue et de sang après avoir enterré les corps et après avoir commis les meurtres.
Quelques jours plus tard, on fait une autre découverte. Un fermier appelle la police depuis les Smoky Mountains dans le Tennessee.
Un fermier des environs de Gatlinburg, dans le Tennessee, a remarqué une voiture stationnée au pied des Smoky Mountains. L'homme a jeté un œil dans la voiture et s'est dit qu'elle avait été abandonnée ou volée. Il a prévenu les autorités. L'immatriculation a permis de confirmer qu'il s'agissait bien de la voiture de Bishop. Là, ça a été le branle-bas de combat. Le FBI est venu fouiller la voiture. Il y avait des zones entières de la voiture qui étaient couvertes de sang. Il y avait des bâches à l'arrière, imbibées de sang. Il y avait une valise remplie de vêtements d'hommes pour plusieurs jours. Il y avait des médicaments dans la boîte à gants au nom de Bradford Bishop. Et il y avait des mégots de cigarettes et des cheveux.
Une fois sa voiture retrouvée, la police se demande si Bishop est parti dans la forêt pour se suicider.
Le break familial a été retrouvé près de Gatlinburg, dans le Tennessee, dans les Smoky Mountains. Le FBI pense que Bishop s'est donné la mort et que son corps est dans la montagne.
Les autorités organisent une battue dans la zone avec des hélicoptères et des chiens, mais elles ne trouvent rien.
Donc ils vont frapper aux portes pour voir si quelqu'un l'a aperçu ou a vu quelque chose. Et une femme qui habite à proximité de cette route déclare que, peu de temps auparavant, elle a vu deux voitures passer par là qui avaient l'air de se suivre. L'une d'elles était le break Bordeaux et l'autre voiture la suivait. Il est impossible de dire si ces deux voitures étaient ensemble. Mais peu de temps après, l'une de ces voitures est repartie. Et ce n'était pas le break Bordeaux.
Est-ce que quelqu'un a accompagné Bishop jusqu'à ce parking, puis l'a aidé à s'enfuir?
Qui pouvait être cette personne? On n'en sait rien. Mais je pense surtout que le fait d'abandonner la voiture à cet endroit était en fait une ruse pour se laisser une avance de quelques jours sur la police et surtout avoir le temps de quitter la région et de se volatiliser.
En 2018, après avoir découvert que mon père biologique était un meurtrier, la première photo que j'ai vue de Bradford Bishop était celle de son avis de recherche par le FBI. Et quand je vous dis que j'en ai eu des frissons dans le dos, je n'exagère pas.
Cathy essaye de comprendre comment Bishop a rencontré sa mère. Visiblement, ils se sont connus lorsqu'il était étudiant à Yale.
Il avait la vingtaine. Elle avait la vingtaine aussi. Elle travaillait dans un magasin à Boston. Mais je n'ai pas réussi à savoir par quel biais ils se sont connus. En même temps, j'ai été frappée par notre ressemblance physique. On a le même grain de beauté sur la joue, ce qui n'a fait qu'ajouter à ma stupéfaction. Et puis, j'ai fait des recherches sur son histoire et j'ai découvert que c'était un homme très intelligent, hautement qualifié. Et j'ai lu des articles sur la voiture qui avait été abandonnée et sur le fait qu'il avait probablement tout planifié à l'avance de façon à déjouer la police.
Seize jours après les meurtres, William Bradford Bishop est désormais un fugitif. Et les enquêteurs pensent que ces années passées à l'étranger vont le rendre encore plus difficile à retrouver.
Bradford Bishop parlait couramment trois langues et s'occupait notamment de la délivrance des passeports américains. Donc, ça ne lui aurait posé aucun problème. Il aurait su exactement quelle était la marche à suivre pour se faire fabriquer un faux passeport et se le faire envoyer.
Comme il a déjà traversé plusieurs États et qu'il pourrait être n'importe où dans le pays, voire à l'autre bout du monde, c'est le FBI qui reprend l'enquête. Et on demande aux ambassades américaines d'être vigilantes. Mais les mois puis les années s'écoulent et il reste introuvable.
Ça ne me paraît pas déraisonnable de penser qu'il avait tout planifié à l'avance. Je dis ça parce qu'on n'a retrouvé aucune trace de document portant le nom de Bradford Bishop après les meurtres. Et le document le plus important que Bishop devait absolument se procurer, c'était un faux passeport américain. Et pour faire ça, à l'époque, avant les ordinateurs, ça a dû prendre au minimum 2 à 3 mois, entre le moment où il a commandé le faux passeport et le moment où il l'a reçu. Il a dû attendre de l'avoir physiquement en main avant de mettre toute cette opération en branle. Toutes les preuves que j'ai pu voir laissent penser que c'était planifié. Ça n'avait rien de spontané. Toutes les preuves vont dans ce sens. la voiture et le fait qu'il n'a pas fait de retrait inhabituel à la banque avant de s'enfuir. Il a soigneusement planifié la manière dont il allait commettre ses meurtres et dont il allait échapper aux griffes de la justice. Et il n'y a rien de surprenant à ce que Bradford Bishop ait réussi à se fondre dans la masse hors des États-Unis. Il avait vécu à l'étranger. Il savait quoi faire pour passer inaperçu ainsi que les endroits à éviter.
Mais des années plus tard, le département d'État apprend que Bishop a été aperçu en ex-Yougoslavie.
Un ancien collègue de Bishop était dans des toilettes publiques en Yougoslavie et tout à coup, il a reconnu Bradford Bishop. Il l'a appelé. L'homme l'a regardé et il est sorti des toilettes. Ce n'est pas très surprenant que Bishop ait été aperçu en Yougoslavie parce qu'il parlait le serbo-croate. Donc ça a ajouté foi au témoignage de son collègue. Mais on ne pouvait rien faire. On ne pouvait pas contacter la police yougoslave et leur demander de chercher Bradford Bishop. Ça n'aurait rien donné.
Finalement, 17 ans après la disparition de Bishop, le département d'État apprend qu'on a peut-être enfin réussi à le localiser.
En 1993, je travaillais à l'ambassade américaine à Paris et j'ai reçu des instructions de notre siège à Washington selon lesquelles Bishop louait une maison dans une petite ville près de Dijon. Et on m'a demandé d'aller l'interpeller. Cette affaire avait mis en échec les autorités pendant des années et on avait enfin réussi à localiser un suspect de meurtre en fuite. On avait l'adresse et la ville. Alors j'ai dit « bien sûr ». 18 heures plus tard, on arrive dans cette petite ville, à l'adresse où il est supposé se trouver. Mais quand on arrive devant la maison, je vois que les poubelles sont vides. Il y a des prospectus dans la porte, dans la boîte aux lettres, et c'est fermé à clé. Il n'y avait personne. J'ai transmis toutes les infos à Washington et je n'ai pas reçu de nouvelles instructions de la part du FBI. J'en suis resté là.
Au fil des ans, il y a plusieurs signalements, en Europe et aux États-Unis. Mais ça ne donne rien. Bradford Bishop reste introuvable.
Au début des années 2000, j'étais chef adjoint du comté de Montgomery. Et un jour, j'ai reçu l'appel d'un homme qui était dans l'armée à l'époque. Cet homme m'a dit que sa mère collectionnait les journaux intimes qui étaient reliés en cuir. Elle était allée à un marché aux puces où elle avait acheté un journal intime. Et il se trouve que c'était celui de William Bradford Bishop. Bien sûr, ça ne nous a pas aidé à retrouver sa trace. Mais ça nous a permis d'entrevoir la part sombre de cet homme qui avait vraiment de grosses difficultés. Il était très désabusé. Il détestait son travail. Il ne dormait plus. Et il était très dépressif. C'était très troublant. Je pense qu'il avait de graves problèmes psychiatriques.
Quand j'ai lu certains passages de son journal intime, j'ai compris beaucoup de choses. Vous prenez la dépression, vous ajoutez l'insomnie, et en plus de tout ça, le fait qu'il avait l'impression d'avoir été évincé de la sphère diplomatique, et vous comprenez le chemin qu'il a pris.
Au fil des années, depuis cette affaire, et notamment dans les années 2000, il y a eu plusieurs émissions et documentaires consacrés au meurtre commis par Bishop. L'un de ces programmes a donné lieu à un rebondissement intéressant.
Un homme dans l'Alabama regarde un documentaire sur cette affaire Bishop et il trouve que Bishop lui fait penser à quelqu'un. Sur les photos, il ressemble étrangement à cet inconnu qui est mort en 1981 dans un accident de la route.
C'était trop ressemblant.
Et donc, la police exhume le corps.
D'après la police, le corps pourrait être celui d'un homme recherché.
Le FBI a fait exhumer le corps de l'inconnu pour faire des prélèvements ADN et les comparer avec ceux de Bradford Bishop. Ils sont donc parvenus, en partant des mégots et des cheveux qui avaient été retrouvés dans le break Bordeaux, à extraire une empreinte génétique.
Nous avons des échantillons d'ADN de Bradford Bishop. Une fois les autres prélèvements effectués, tout sera envoyé au labo du FBI à Quantico.
Malheureusement, quand le FBI a comparé ces prélèvements, il a pu être avéré que le corps exhumé n'était pas celui de William Bradford Bishop.
Le drame de la famille Bishop nous a marqués pendant très longtemps. Je trouve ça toujours très difficile à admettre qu'un être humain puissent massacrer comme ça d'autres personnes, a fortiori des proches, des personnes qu'il est censé aimer.
Avec le temps, la question que je me pose, c'est pourquoi ? Pourquoi assassiner toute sa famille avant de disparaître, au lieu de simplement partir, tout seul ?
Visiblement, il avait adoré vivre en Europe et travailler dans le monde de la diplomatie, avec tous les avantages que ça impliquait. Et ça lui manquait, après avoir été renvoyé aux États-Unis.
Il était très désabusé. Il détestait son travail. Il était très dépressif. Je pense qu'il avait de graves problèmes psychiatriques. Mais j'ai beau avoir passé plus de 30 ans à étudier l'affaire Bishop, il y a quelque chose que je n'arrive toujours pas à comprendre. C'est quel pouvait bien être son mobile pour vouloir tuer toute sa famille. Je n'en sais rien.
J'ai l'impression que, dans son esprit dérangé, il estimait qu'il aurait mérité mieux. C'est la seule raison à laquelle je pense pour expliquer ce qu'il a fait.
Un nouveau nom sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI.
Le FBI l'a mis sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés et a diffusé de nouvelles informations à son sujet, ainsi qu'un portrait montrant à quoi il pourrait ressembler plus vieux. Malheureusement, on n'a eu aucune piste menant à son arrestation.
Cela fait maintenant près de 50 ans que William Bradford Bishop a tué sa mère, Lobelia, sa femme Annette, et ses trois fils, Brad, Brenton et Jeffrey. Le mobile du crime restera sans doute un mystère.
J'ai un petit faible pour Lobelia, ma grand-mère. Elle aurait voulu être actrice. Apparemment, elle avait une très belle voix. Ça m'a vraiment marquée, parce qu'on a les mêmes centres d'intérêt. Et je me dis que peut-être j'ai hérité de ses talents. Et il y a tellement de détails que j'aurais aimé connaître, et que je ne connaîtrai sans doute jamais. C'est frustrant.
D'après ce qu'elle a appris, Cathy pense que même si Brad était au courant de son existence, il n'a pas dû en parler à Annette ni à personne d'autre.
Qui sait quels autres secrets il pouvait bien avoir? Le plus grand secret de tous, c'est probablement l'endroit où il se cache et pourquoi il a fait ça.
S'il est toujours en vie, Bradford Bishop a aujourd'hui 88 ans et il est toujours en fuite.
Plus le temps passe, plus les chances de le retrouver diminuent. Mais son mandat d'arrêt est toujours en vigueur depuis 1976. L'affaire reste ouverte. Et si nous recevons des informations, je m'engage à suivre chaque nouvelle piste.
Bien que j'ai pris ma retraite il y a 2 ans, je continue à faire tout mon possible pour que l'affaire Bishop ne retombe pas dans l'oubli. Peut-être que ça permettra à quelqu'un de se rappeler un détail, ou peut-être que quelqu'un le reconnaîtra, le retrouvera, et qu'il sera enfin jugé.
En 2024, Kathy Gilchrist continue de chercher le maximum d'informations sur sa famille biologique. Et elle rencontre Susan Williams, l'amie d'enfance de William Bradford Bishop III.
Sue, bonjour. Moi, c'est Kathy.
Je suis tellement contente de vous rencontrer.
Moi aussi. Je m'attendais à ce que vous ayez 14 ans.
C'est mon âge ressenti.
Asseyez-vous.
OK.
Pour moi, tout ça jusqu'à aujourd'hui, c'était une histoire. Alors ça, c'est...
Trop mignon.
On dirait un petit surfeur.
Oui.
Je connaissais cette photo.
Magnifique.
Regardez. Mais quand je me retrouve ici, dans l'école que mes demi-frères ont fréquentée, quand je visite la maison où ils ont vécu, et que j'ai l'occasion de rencontrer l'ami de mon frère Brad, ça cesse d'être une histoire. Et ça devient concret.
Quand c'est arrivé, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire, et on a décidé de planter un arbre dans la cour, avec une plaque commémorative. Et à l'heure du déjeuner, on récoltait de l'argent auprès des élèves.
C'est une idée adorable.
Oui.
En admettant que William Bradford Bishop soit toujours vivant et que je puisse lui parler, je lui demanderai comment il arrive à vivre avec ça sur la conscience. Comment vous justifiez ce que vous avez fait? Et est-ce que vous êtes heureux maintenant? Ah, la voilà.
Alors, oui, à l'origine, elle était posée au pied de l'arbre et ils l'ont déplacée ici.
Wow.
C'est beau, hein?
Oui, c'est adorable. Ça rend les choses tellement concrètes.
Oui.
C'est mon petit frère.
On va voir l'arbre? Allez.
OK, allons voir l'arbre. Le voilà.
Wow.
Il est magnifique.
Oui.
Déjà en soi, c'est vraiment un arbre magnifique.
Oui, il était tout petit.
On t'aime, Brad. Ta grande sœur est désolée. C'est l'histoire de ma famille, de mon héritage. Et c'est dur à accepter.
La scène s'ouvre dans un silence rural, un silence que seule la mémoire trouble d'un village peut briser. C'était l'été 1985, au cœur d'un hameau figé entre champs de blé et vieilles pierres, un lieu où les portes restaient souvent entrouvertes, où chacun connaissait le prénom des enfants du voisin et où les secrets s'enfouissaient dans la poussière des routes de terre. Mais ce 12 juillet, un cri avait résonné comme une déchirure dans la toile paisible du quotidien, un cri que personne n'avait oublié, même après des décennies, celui de Claire Dubois, la fille du boulanger, retrouvée morte dans la maison familiale, le sang maculant, les murs blanchis à la chaux, le corps abandonné dans une posture si brutale qu'il semblait presque une mise en scène. La police locale avait accouru, les lampes halogènes se reflétant sur les vitres, transformant la rue en théâtre d'ombre. Dans la maison, l'air était saturé de fer, cette odeur métallique qui s'imprime dans la gorge et que les enquêteurs, même aguerris, peinent à oublier. La victime avait 23 ans. Elle était connue de tous, souriante, studieuse, active dans la paroisse. Rien ne semblait justifier une telle fin. Mais les apparences, dans ce genre d'histoire, sont toujours trompeuses. Dès les premières heures, la confusion s'installa. Pas d'effraction visible, pas de vol, un crime commis dans un espace clos, presque intime. Les rumeurs avaient proliféré comme des herbes folles. Un amoureux éconduit, une querelle de famille, un voyageur de passage. Mais rien de solide. Le temps, inexorable, recouvrit l'affaire d'une pellicule de poussière. Le dossier finit par s'endormir dans une armoire de fer du commissariat départemental classée parmi les « non résolus ». Pourtant, quelque chose, un détail infime, restait tapis dans l'ombre attendant d'être réveillé. Car dans cette maison, au milieu du chaos du meurtre, il y avait un objet que personne ne soupçonnait encore de devenir le témoin muet de la vérité. Une Bible, posée sur une table en bois, ouverte sur le livre des psaumes, ses pages portaient des taches sombres. On les avait d'abord prises pour des éclaboussures banales, traces du drame. Elles furent notées dans les procès-verbaux, sans y accorder plus d'importance. Mais cette Bible, épaisse, usée, transmise de génération en génération, allait devenir, 40 ans plus tard, la clé d'un mystère. Dans les années 80, la police scientifique n'avait pas encore les moyens d'aujourd'hui. L'ADN n'était qu'un mot lointain, un concept de laboratoire expérimental. Les enquêteurs relevaient des empreintes, mesuraient des angles, photographiaient la scène. Mais le sang, lui, n'était qu'une masse rougeâtre, une donnée sans langage. Personne n'imaginait que, 4 décennies plus tard, chaque goutte pourrait parler, identifier, accuser. Pendant toutes ces années, le village avait continué à vivre avec ce fantôme. Le boulanger, vieilli, servait son pain chaque matin, derrière son comptoir. Mais son regard se voilait parfois lorsqu'un client évoquait sa fille disparue. Les enfants grandissaient avec l'histoire chuchotée à voix basse. Tu sais, la maison du bois, c'est là qu'ils ont tué Claire. Les murs s'étaient imprégnés de cette mémoire et l'air semblait toujours plus lourd à mesure que l'on s'approchait de la ruelle étroite où le crime avait eu lieu. Et puis, en 2023, presque par hasard, l'affaire resurgit. Un programme national de réexamen des dossiers criminels non résolus permit de rouvrir certaines enquêtes anciennes. Parmi elles, le meurtre de Claire Dubois. Les enquêteurs, désormais armés de technologies ultramodernes, parcoururent les scellés poussiéreux, redécouvrant les objets entreposés dans des sacs plastiques jaunis par le temps. Et là, la Bible. On la sortit de son emballage, on observa à nouveau ses pages, figées dans leur silence de papier, et l'idée surgit. Prélever, analyser, faire parler ces tâches anciennes. Le laboratoire criminel, avec ses machines capables d'extraire un profil génétique à partir d'un fragment microscopique, mit au jour ce que personne n'attendait plus. Les traces de sang ne provenaient pas seulement de la victime. Mélangées à l'hémoglobine de Claire, il y avait une autre signature. Un âne étranger resté prisonnier des fibres du papier sacré pendant près de 40 ans. Et cet ADN correspondait à un homme du village, toujours vivant, toujours là. Un visage familier, un cousin éloigné, ouvrier agricole, aujourd'hui retraité, que personne n'avait jamais soupçonné. La découverte fit l'effet d'une déflagration. Les vieux habitants, assis aux terrasses dans des cafés, se regardaient avec stupeur. Comment un homme qu'ils croisaient chaque jour, qu'ils saluaient d'un geste banal, avait-il pu porter ce secret si longtemps? Le passé ressurgissait, brutal, impitoyable. La justice, que l'on croyait assoupie, reprenait son souffle. Les gendarmes vinrent frapper à la porte de l'homme. Dans sa cuisine, aux carreaux défraîchis, l'odeur du café se mêla à celle de la peur. On lui lut ses droits, il pâlit, ses mains tremblaient. Dans la salle d'interrogatoire, il garda d'abord le silence. Ses yeux fixaient un point invisible, comme s'il cherchait dans la mémoire une justification qui n'existait pas. Mais la science ne laisse pas de place à l'échappatoire, l'ADN ne ment pas. Confronté au résultat, il finit par parler, d'une voix rauque, étranglée. Ce qu'il raconta glaça le sang des enquêteurs. Ce n'était pas un meurtre prémédité, selon ses mots, mais une explosion de colère, une dispute qui avait dégénéré, une dette d'argent, une humiliation ancienne, des rancunes accumulées dans le silence rural. Et ce soir-là, dans la maison du bois, la rage avait pris le dessus. Il décrivit la scène avec des mots qui semblaient plus lourds que le plomb. La gifle, le cri, le coup porté avec un outil oublié sur la table. Puis le silence, immense, irréversible. Le sang avait giclé, éclaboussant les murs, les vêtements, et cette Bible ouverte, témoin muet du drame. Le détail glaçant, c'est qu'il avait essayé d'essuyer ses mains sur les pages, dans une panique aveugle, laissant derrière lui sa propre empreinte biologique, une signature indélébile. Sans le savoir, il scellait son destin enfermé entre deux versets bibliques. Ce fut comme si le passé, longtemps enseveli, venait d'exploser au visage du présent. Les enquêteurs, en sortant de la salle d'interrogatoire, ressentaient le poids de l'histoire elle-même. La Bible, livre sacré, était devenue le carnet d'accusation. Elle avait protégé au fil des décennies la vérité qu'aucun témoin humain n'avait osé dire. Le village, ce soir-là, semblait avoir replongé dans l'année 1980. Les rues étroites se peuplaient de murmures, les volets clos s'ouvraient discrètement pour observer les voitures de gendarmerie. On aurait dit un théâtre immobile où chaque habitant devenait spectateur malgré lui. Le nom de Claire Dubois, répété à voix basse, circulait de nouveau comme une blessure que l'on croyait cicatrisée. Les plus âgés se souvenaient du cortège funèbre, de la cloche de l'église qui avait sonné d'une manière presque interminable, du visage ravagé du père derrière le cercueil. Désormais, une réponse existait, mais cette réponse portait un visage familier, un voisin que l'on avait croisé 1000 fois sans soupçonner son poids de ténèbres. Dans la maison des Dubois, figée depuis le drame, les enquêteurs retournèrent sur les lieux, non pas pour chercher de nouvelles preuves, mais pour ressentir, comprendre, reconstituer. Le parquet craquait encore sous leurs pas, les murs exhalaient cette odeur de renfermé où le passé semblait avoir été enfermé comme dans une prison. La cuisine, où la Bible avait été posée, restait le centre névralgique de la mémoire du crime. L'un des officiers fit remarquer, en observant la lumière filtrée à travers les rideaux jaunis, que chaque maison garde en elle la trace invisible des violences qui s'y sont déroulées, comme si la matière elle-même refusait d'oublier. À l'époque, les gendarmes de 1935 avaient fouillé chaque recoin, interrogé chaque voisin, compilé des centaines de pages de procès-verbaux. Mais la vérité s'était glissée entre les lignes, invisible, silencieuse. Car comment accuser un homme sans preuves tangibles, dans une société encore marquée par le poids des réputations, par la solidarité forcée d'une communauté rurale? Tout le monde savait, ou du moins pressentait, que des rancunes existaient entre la famille Dubois et certains membres de la parenté éloignée. Mais savoir ne suffit pas. La justice exige de démontrer, de prouver, et à cette époque, le sang sur les pages de la Bible n'était qu'une tache rougeâtre, rien de plus. Aujourd'hui, ce sang avait retrouvé sa voix. Chaque cellule, figée dans le papier, s'était transformée en témoin. Le procureur, en lisant le rapport d'analyse, avait eu une phrase qui glaça l'assistance. C'est comme si la Bible avait attendu 40 ans pour livrer son verdict. Et ce verdict, implacable, pointait vers celui qui, durant toutes ces décennies, avait marché libre, vieillissant tranquillement parmi les siens. Mais l'histoire ne se résumait pas à une simple identification. Derrière le geste meurtrier, il y avait une mosaïque de rancunes enfouies, de silences accumulés. L'homme arrêté, nommé officiellement dans les dossiers comme Étienne, avait grandi dans la même terre, foulé les mêmes champs que Claire. Les témoins de l'époque décrivaient un garçon taciturne, un travailleur laborieux, parfois emporté par des accès de colère imprévisibles. Rien, pourtant, qui aurait laissé deviner une telle issue. Sauf peut-être ce détail que plusieurs villageois rappelèrent en 2023. Étienne avait disparu quelques jours après le meurtre, prétextant du travail dans une ferme éloignée. À l'époque, personne n'y avait vu un signe, mais la mémoire collective en conserva la trace. Comme une anomalie sans explication. Lorsque les gendarmes l'amenèrent devant le juge d'instruction, l'atmosphère dans la salle était d'une densité presque suffocante. L'homme, désormais voûté, le visage creusé par les années, semblait minuscule face à la gravité de l'accusation. Pourtant, derrière ses yeux ternes, on percevait encore une braise, celle d'une colère ancienne jamais éteinte. Ses premiers mots furent une tentative d'échappatoire. « C'était un accident, je ne voulais pas... » Mais la mécanique judiciaire ne se nourrit pas de repentir tardif, elle exige de la clarté. Les enquêteurs reconstituèrent la soirée fatale. Une dispute autour d'une dette, un échange de mots durs, l'explosion soudaine de violence. L'arme improvisée, un outil métallique, avait frappé, brisé, réduite au silence. Puis la panique, la tentative dérisoire d'effacer les traces, ce geste absurde d'essuyer le sang sur la Bible comme si les mots sacrés pouvaient absorber la faute. Mais au lieu d'effacer, il avait incrusté sa propre identité dans le tissu même de l'objet. Ironie cruelle, c'est cette volonté de dissimuler qui l'avait trahi. Pour les habitants, la révélation provoquait une fracture. D'un côté, le soulagement, enfin, la vérité, enfin, un nom, enfin, la possibilité pour la famille Dubois de refermer un chapitre resté ouvert trop longtemps. Mais de l'autre, une douleur nouvelle, devoir admettre que le meurtrier n'était pas un étranger, pas un monstre venu d'ailleurs, mais l'un des leurs, un homme qui avait partagé leur repas, leur vendange, leur fête de village. La monstruosité, soudain, se révélait proche, intime. Et c'est peut-être cela, le plus insoutenable, comprendre que le mal ne vient pas toujours de loin, mais qu'il sommeille, parfois, à quelques mètres de votre porte. Dans les archives du commissariat, on redécouvrit des notes qui, à la lumière des nouvelles preuves, semblaient étrangement prémonitoires. Un enquêteur de 1985 avait écrit « Impression diffuse que quelqu'un proche de la famille cache quelque chose ». Mais sans ADN, sans témoin direct, ce pressentiment n'avait pas suffi. L'affaire s'était refermée, faute de clés, et la Bible, reléguée parmi les scellés, avait attendu son heure. Le procès à venir promettait d'être un événement historique pour le village. Les journalistes commencèrent à affluer, installant leurs caméras sur la place centrale, interviewant des habitants partagés entre honte et soulagement. Certains parlaient de malédiction, d'autres de justice divine. Une vieille femme, interrogée à la sortie de l'église, dit simplement « Dieu n'oublie pas. Il a laissé les mots de son livre absorber la vérité jusqu'à ce que les hommes soient prêts à l'entendre. » Cette phrase résonna longtemps, comme une métaphore plus puissante que n'importe quel réquisitoire. Pendant ce temps, Étienne R. restait en détention provisoire, seul face à l'évidence de son geste. Les murs froids de la cellule lui renvoyaient probablement l'écho de ce soir de 1985 et de ce moment où sa vie avait basculé dans l'irréparable. Chaque tic-tac de l'horloge du centre pénitentiaire martelait la même vérité. Ce que l'on croit enfoui finit toujours par ressurgir. La justice a la patience du temps et le sang, même séché, conserve une mémoire. La famille Dubois, quant à elle, oscillait entre douleur et apaisement. Le père, vieilli, avait été enterré depuis longtemps, sans avoir connu la vérité. Mais les survivants, frères et cousins, assistaient désormais à la résurgence de ce passé. Pour eux, ce n'était pas une victoire, car aucune condamnation ne rend la vie à une victime. C'était une forme de clôture, un point final posé par une main invisible. Et pourtant, en parcourant les pages de cette Bible tachée, ils avaient le sentiment étrange que Claire, d'une certaine manière, avait elle-même guidé la justice jusqu'à son meurtrier, comme si son sang avait refusé le silence. La salle d'audience, quand elle fut ouverte au public, se transforma en une espèce de tension où chaque souffle semblait peser. Les bancs de bois craquaient sous le poids des habitants du village venus assister au procès, certains par curiosité, d'autres par fidélité à la mémoire de Claire. Au premier rang, la famille de la victime, figée dans une dignité douloureuse, observait l'homme qui, pendant près de 40 ans, avait marché libre parmi eux. Étienne R. s'asseyait dans le box des accusés, vêtu d'une chemise claire trop large, comme si ses épaules s'étaient rétrécies sous le poids des années et du secret. Son visage, marqué de rides profondes, paraissait celui d'un vieillard ordinaire, mais derrière cette banalité se cachait l'écho d'un geste irréversible. Le procureur ouvrit la séance d'une voix ferme, rappelant la brutalité du crime, l'absurdité d'une querelle transformée en meurtre, et la persistance du silence qui avait enveloppé l'affaire. Les mots résonnaient dans la salle comme des coups de marteau. Une jeune femme, 23 ans, frappée dans sa propre maison, laissée à mourir sans secours. La Bible, tachée de sang, fut déposée comme pièce à conviction. L'objet, usé, lourd de symboles, attira tous les regards. Certains y virent un témoignage sacré, d'autres une ironie cruelle. Que le livre de la foi ait conservé la preuve d'un crime commis par un homme qui fréquentait autrefois la même église. Les experts vinrent témoigner. Ils expliquèrent, dans un langage précis et implacable, comment l'ADN avait été extrait des fibres anciennes que du papier, comment les molécules, malgré le temps, avaient résisté, livrant un profil génétique complet. L'un d'eux déclara « comme si le papier avait protégé la vérité, comme si chaque fibre avait décidé de garder intacte une mémoire de chair. La science, froide et rigoureuse, devenait presque poétique face à cette histoire. Le jury écoutait, captivé, conscient d'assister à un moment rare où le passé et le présent se rejoignent dans un éclat de lumière. Puis vint le temps de la défense. L'avocate d'Étienne tenta de plaider l'accident, la perte de contrôle, l'absence de préméditation. Il parla d'un homme solitaire, incapable de gérer ses émotions, d'une querelle qui avait dégénéré. Mais dans la salle, les visages restaient fermés. Car quelle que soit la colère, rien ne pouvait justifier le silence qui avait suivi. L'abandon de la victime, la fuite lâche d'un homme préférant l'ombre à la vérité. Quand Étienne prit enfin la parole, sa voix tremblait, il ne regarda pas la famille Dubois, il fixait un point dans le vide comme s'il parlait à un mur invisible. « Je ne voulais pas la tuer. C'était une dispute. Elle m'a provoqué. J'ai perdu la tête. » Ces mots s'égrenaient, maladroits, sans force. On sentait plus de fatigue que de remords. Ce fut alors le frère de Claire, présent dans la salle, qui brisa le silence d'un murmure rauque. « Tu aurais pu demander pardon, il y a 40 ans. » La phrase, simple, fut plus lourde que n'importe quel réquisitoire. Le procès se déroula sur plusieurs jours. On fit venir des témoins de l'époque, aujourd'hui vieillissants, qui racontèrent la nuit du meurtre. Les bruits entendus, les soupçons étouffés. Une voisine parla d'un éclat de voix, d'un bruit sourd, mais admit que, par peur ou par habitude, elle n'avait rien dit aux gendarmes. Un autre témoin évoqua la disparition soudaine d'Étienne après le crime, un détail qu'il n'avait pas osé partager à l'époque, de crainte de semer la discorde. Ces récits, alignés les uns après les autres, composaient un puzzle que l'ADN avait désormais rendu complet. Le village, à travers ce procès, revivait ses propres silences. Car il n'y a pas que le meurtrier qui porte le poids d'un crime. Il y a aussi la communauté, complice malgré elle, par peur, par aveuglement, par habitude de taire ce qui dérange. Dans chaque témoignage, on percevait cette culpabilité diffuse. Comme si chacun, en se taisant en 1985, avait laissé le temps couvrir le crime de son voile d'oubli. Le procès n'était pas seulement celui d'un homme, mais aussi celui d'une époque, d'un milieu rural fermé sur lui-même, où la vérité dérange plus que le mensonge. Au troisième jour, le procureur prononça son réquisitoire final. Il parla de la mémoire de Claire, de la douleur d'une famille, du silence imposé à une communauté. Il évoqua aussi la puissance de la science, capable de briser les murs du temps, et conclut d'une phrase qui resta gravée. Le sang a parlé, et ce qu'il dit, aucun silence ne pourra plus jamais l'effacer. Le verdict tomba dans une atmosphère glaciale. Étienne R. fut reconnu coupable de meurtre, condamné à une peine de réclusion criminelle. Dans la salle, un souffle parcourut l'assemblée, mélange de soulagement et de stupeur. Certains pleuraient, d'autres restaient impassibles. La famille Dubois se tenait debout, les yeux brillants, sans triomphe, seulement avec la gravité de ceux qui savent que justice ne rend pas la vie, mais rétablit au moins la vérité. Lorsque le tribunal se vida, le village retrouva son silence. Mais ce silence n'était plus le même. Il n'était plus celui du non-dit, mais celui d'un chapitre refermé. Pourtant, dans les esprits, l'image de la Bible tachée restait comme une métaphore obsédante. Les pages d'un livre sacré portant l'empreinte d'un crime, un texte divin transformé en registre judiciaire. Les habitants savaient désormais qu'ils ne pourraient plus jamais regarder cet objet sans frissonner. À l'extérieur, les journalistes diffusaient leurs reportages, résumant en quelques minutes ce qui avait pesé 40 ans. Mais aucun résumé ne pouvait transmettre l'atmosphère lourde de ce procès, le mélange d'histoires intimes et de destins collectifs. Le village tout entier était devenu une scène de mémoire, où chaque pierre, chaque visage portait la trace invisible de l'affaire Dubois, et dans les cafés, on répétait cette phrase « Le sang ne ment jamais ». Comme un proverbe nouveau forgé dans la douleur, la cellule d'Étienne, désormais, était son seul horizon. Là, entre quatre murs gris, il répétait sans doute ses justifications, ses regrets tardifs. Mais dans les couloirs de la prison, son nom n'était qu'un parmi d'autres, un vieil homme parmi les criminels, réduit à une simple suite de chiffres administratifs. La banalité, de sa vie actuelle contrastait violemment avec l'onde de choc qu'il avait laissée derrière lui. Car au fond, le crime ne disparaît jamais. Il continue de vivre dans la mémoire des survivants, dans les archives, dans les symboles. Et cette Bible, conservée désormais au greffe comme pièce éternelle, devenait plus qu'une preuve. Elle était un avertissement. Un livre destiné à enseigner la foi s'était transformé en gardien de vérité. Comme si, au-delà des hommes, il existait toujours une force silencieuse refusant l'oubli, un fil invisible reliant le passé au présent. C'est cela qui glaçait les enquêteurs, les habitants et même les juges. L'idée que certains objets deviennent des témoins immortels, que la matière elle-même prend parti pour la justice. Lorsque les lourdes portes du tribunal se refermèrent, le village sombra dans une étrange torpeur. Le procès avait apporté des réponses, mais il avait aussi ouvert d'autres cicatrices. Dans les rues pavées, le bruit des pas résonnait comme une interrogation muette. Que reste-t-il d'une communauté lorsqu'elle découvre que le mal habitait l'un de ses foyers les plus ordinaires? Les regards échangés au marché, autrefois empreints de confiance, portaient désormais une ombre nouvelle. Chaque conversation s'interrompait lorsqu'on prononçait le nom d'Étienne R., comme si ce simple nom possédait le pouvoir de fissurer le quotidien. Les Dubois, malgré la condamnation, ne connaissaient pas la paix. La sœur de Claire, Marianne, déclara au journaliste qu'elle avait attendu toute sa vie pour entendre ce verdict, mais que sa victoire avait le goût amer d'une vérité trop tardive. Elle raconta comment, enfant, elle avait grandi sous l'ombre d'un deuil jamais expliqué. Comment chaque repas de famille s'était transformé en une table bancale où l'absence de Claire était une chaise vide que personne n'osait nommer. « La justice a parlé, dit-elle, mais nous avons vécu 40 ans dans une maison hantée. » Dans les cafés, les anciens racontaient encore leurs souvenirs de 1945, mais désormais avec une précision troublante, comme si le retour de la vérité avait libéré leur mémoire. L'un évoquait les cloches de l'église qui avaient sonné à contre-temps. Un autre se souvenait du visage fermé d'Étienne au lendemain du drame. Tous redécouvraient des indices qu'ils n'avaient pas su relier, des détails qu'ils avaient laissés mourir avec le temps. Cette redécouverte tardive prenait parfois des allures de culpabilité collective. Les enquêteurs, eux, poursuivaient un travail de fond. Car un procès ne met pas fin à une histoire. Il la prolonge dans les archives, dans les études de cas, dans les séminaires de criminologie. Le meurtre de Claire Dubois devint rapidement un exemple cité dans les écoles de police. Une démonstration de la puissance des scellés conservés et du rôle imprévu que peuvent jouer les objets les plus banals. On montrait aux élèves la photographie de la Bible tachée. On expliquait comment les fibres du papier avaient agi comme un coffre-fort biologique, préservant l'empreinte du meurtrier malgré les décennies. Mais au-delà des leçons scientifiques, ce crime soulevait une question plus profonde. Qu'est-ce qui pousse un homme ordinaire à basculer dans l'horreur? Les experts psychiatres, appelés au procès, avaient dressé un portrait inquiétant d'Étienne. Ils parlèrent d'un tempérament explosif, d'une incapacité à gérer la frustration, d'une rancune chronique nourrie par un sentiment d'injustice sociale. Dans ses propos, on retrouvait une obsession pour la reconnaissance, une impression d'avoir été méprisé par la famille Dubois, plus respectée, plus intégrée dans la communauté. Ce complexe, accumulé au fil des années, aurait fermenté comme un poison silencieux jusqu'à l'explosion fatale. L'image qui se dessinait n'était pas celle d'un monstre, mais celle d'un homme rongé par ses propres failles, incapable de contrôler ses pulsions. C'est peut-être cela qui glaçait le plus. Réaliser que le meurtrier n'était pas un être exceptionnel, mais un voisin banal, un homme dont les faiblesses ressemblaient aux nôtres, mais portées à leur paroxysme. La banalité du mal, encore une fois, prenait visage dans un petit village français. Au cimetière, la tombe de Claire se couvrit de fleurs comme jamais auparavant. Les habitants, pris dans une vague de remords, venaient y déposer des bouquets, des prières, des mots tardifs. On aurait dit que chacun cherchait à s'excuser de son silence, à rattraper 40 ans de mutisme. La pierre tombale, patinée par le temps, devint un autel où l'on murmurait. On t'a enfin rendu justice, mais dans le silence des soirs, les passants juraient sentir encore une forme de présence, comme si l'âme de Claire n'avait pas entièrement quitté le village. La maison des Dubois, quant à elle, restait fermée, ses volets battus par le vent. Elle était devenue une sorte de monument macabre, un lieu où les jeunes venaient parfois jeter un coup d'œil en cachette, défiant leur propre peur. La cuisine, avec sa table où reposait la Bible, était désormais connue de toute la France, immortalisée par les reportages télévisés. Mais pour les habitants du hameau, elle restait avant tout une plaie ouverte, une cicatrice au cœur de leur paysage quotidien. Dans les semaines qui suivirent, des écrivains, des journalistes, des documentaristes se succédèrent pour raconter l'histoire. Chacun voulait saisir l'angle le plus fort, la puissance de l'ADN, la lenteur de la justice, la dimension symbolique de la Bible. Mais derrière ces récits, il y avait toujours le même frisson, celui d'un village qui avait vécu avec un meurtrier parmi ses habitants sans le savoir. Un journaliste résuma en une phrase « Ce qui nous terrifie, ce n'est pas la violence du crime, mais la normalité de celui qui l'a commis. » Étienne, enfermé dans sa cellule, devint à son tour un objet de curiosité. Certains journaux publièrent des portraits, retraçant sa vie, ses habitudes, ses photos jaunies. On découvrit un homme discret, presque effacé, qui avait travaillé toute sa vie sans éclat. Mais derrière cette façade, il y avait cette nuit de juillet 1945, ce moment de bascule qui l'avait marqué à jamais. Les psychologues qui l'observaient disaient voir chez lui une forme de déni persistant. Il reconnaissait le geste, mais refusait de le considérer comme un meurtre. Comme si admettre la vérité revenait à s'écrouler totalement. Pour les enquêteurs, cette affaire devint un symbole. Elle rappelait que le temps n'efface pas les crimes, qu'il les enfouit seulement sous des couches de silence. Et que parfois, un simple objet oublié peut faire ressurgir l'horreur avec une précision implacable. Ils disaient entre eux « Les murs parlent, les livres parlent, il n'y a que les hommes qui se taisent. » Dans les veillées du village, on racontait désormais cette histoire aux enfants comme une légende noire. On leur disait que le mal peut se cacher derrière un sourire, qu'il ne porte pas toujours les traits d'un étranger, et que la vérité finit toujours par se frayer un chemin, même à travers les fibres d'un vieux papier. Les jeunes, fascinés et terrifiés, écoutaient ces récits en silence, comprenant que leur village portait une histoire qu'aucune génération n'oublierait. Le temps reprit lentement son cours, mais jamais il ne fut tout à fait le même. Chaque cloche qui sonnait à l'église rappelait celle du jour de l'enterrement. Chaque messe où l'on ouvrait une Bible faisait surgir l'image des pages tachées. Et chaque soir d'été, lorsque le vent passait entre les champs, il semblait porter avec lui le murmure de Claire, ce cri de 1985 qui n'avait jamais cessé de résonner. Dans les mois qui suivirent le verdict, le village entra dans une période d'introspection presque maladive. On aurait dit que chaque pierre des maisons, chaque arbre du cimetière portait désormais la marque invisible du crime. Les conversations se faisaient plus rares, les gestes plus hésitants. Ceux qui avaient grandi avec Étienne Herrère tentèrent de se souvenir d'un signe, d'un détail, d'une phrase qui aurait pu trahir son secret. Mais rien, sinon une impression diffuse, un malaise rétrospectif, comme si la vérité ne pouvait être perçue qu'après coup, à la lumière du sang révélé. La presse nationale continuait d'évoquer l'affaire. Des magazines spécialisés consacraient des dossiers entiers au rôle de la Bible, transformé en pièce maîtresse. On publiait des photos de l'objet, ses pages figées dans le silence, tachées comme un palimpseste macabre. Certains journalistes y voyaient une ironie divine, d'autres une métaphore cruelle, que la parole sacrée ait servi de refuge à la vérité biologique, conservant le témoignage qu'aucun être humain n'avait osé transmettre. Les habitants, eux, se divisaient. Une partie considérait que justice était faite et que le village devait désormais tourner la page. Mais d'autres affirmaient que rien ne pouvait effacer la honte d'avoir côtoyé le meurtrier sans rien dire, sans rien voir. On accusa même certains notables d'avoir fermé les yeux en 1985 pour préserver la réputation de la communauté. Cette querelle interne ravivait les tensions, comme si le crime, même élucidé, continuait de diviser les vivants. Pendant ce temps, en prison, Étienne R. devenait un spectre. Les gardiens décrivaient un homme replié, silencieux, qui passait ses journées à fixer le sol ou à écrire des mots épars sur des feuilles volantes. On disait qu'il relisait la Bible comme pour défier l'ironie de son destin. Mais il n'y trouvait aucune rédemption, seulement le rappel constant de sa faute. Ses co-détenus, certains auteurs de crimes tout aussi graves, le surnommaient « le sang de papier », comme si son identité s'était confondue avec cette trace indélébile. Le village, de son côté, chercha à transformer ce traumatisme en enseignement. L'école locale organisa des ateliers de mémoire, où l'on expliquait aux adolescents comment la science avait permis de faire parler le passé. On leur montrait des extraits du procès, des photos d'archives, des coupures de presse. Mais derrière l'aspect pédagogique se cachait un autre objectif. Rappeler que le silence, la peur, l'omerta avaient aussi été complices du meurtre. Les enseignants insistaient « Ne vous taisez jamais face à la violence. Même un détail peut sauver une vie. » La tombe de Claire devint un lieu de pèlerinage discret. Chaque semaine, des inconnus, parfois venus de loin, y déposaient des fleurs. Des associations de victimes de crimes non résolus prenaient exemple sur son histoire pour militer en faveur de la réouverture systématique des dossiers anciens. La mémoire de la jeune femme dépassait désormais les frontières du village. Elle devenait un symbole national de persévérance et de vérité retrouvée. Mais pour sa famille, cette reconnaissance tardive n'effaçait pas la douleur intime. Marianne, la sœur, confia un jour à un journaliste qu'elle ressentait parfois plus de colère que de soulagement. On nous parle de justice, mais on oublie qu'on a vécu 40 ans dans le noir, on oublie qu'on nous a condamnés au silence autant que lui. Ces mots résonnaient comme un rappel cruel. Un crime ne se limite pas à la mort d'une victime, il empoisonne la vie de tous ceux qui restent. Dans les archives judiciaires, l'affaire Dubois prenait désormais place aux côtés des plus grands cold cases résolus. Elle était étudiée comme un cas d'école, cité dans les colloques de criminologie analysés par des magistrats. Mais ce traitement académique ne faisait qu'accentuer le contraste avec la réalité vécue. Derrière chaque schéma, chaque statistique, il y avait le visage de Claire, son rire figé sur les vieilles photos de famille et ce silence pesant qui avait englouti le village pendant près de 40 ans. Certains soirs, dans les veillées, on évoquait la figure du père Dubois, mort sans avoir su la vérité. Les anciens racontaient comment il errait dans les champs, seul, comme un homme qui cherchait une réponse au milieu des blés. Sa silhouette, perdue dans la brume matinale, devint une image gravée dans la mémoire collective. Il représentait le poids du doute, l'incarnation d'une injustice que seul le temps, allié à la science, avait fini par corriger. Mais trop tard pour lui. Trop tard pour voir son bourreau condamné. Et toujours revenait cette image obsédante. La Bible ouverte, ses pages tachées. Les villageois disaient que cet objet avait absorbé l'âme de Claire, qu'il avait refusé de laisser le crime disparaître. Les plus croyants y voyaient un signe de la providence. Les plus sceptiques, une simple coïncidence. Mais tous admettaient que la symbolique était trop forte pour être ignorée. Comme si le sacré avait choisi de se transformer en preuve, comme si les mots millénaires inscrits dans le livre avaient décidé de protéger une vérité humaine. Dans les discussions des cafés, un thème revenait sans cesse. Et si d'autres crimes dormaient encore dans les archives, attendant qu'un objet, une tache, une empreinte ressurgisse, cette idée glaçante hantait les conversations. Le passé, loin d'être clos, apparaissait désormais comme un terrain miné, prêt à exploser au contact de la technologie moderne. Les habitants regardaient différemment leurs greniers, leurs vieilles armoires, leurs souvenirs poussiéreux, comme si chaque objet pouvait être porteur d'une vérité enfouie. La justice, elle, continuait son œuvre. Le procureur annonça que d'autres dossiers de la région seraient rouverts. Les enquêteurs parcouraient les scellés oubliés, manipulant avec des gants des objets qui semblaient insignifiants, mais qui, à la lumière de la science, pouvaient se révéler explosifs. L'affaire Dubois avait ouvert une brèche. Plus aucun crime ancien ne pouvait désormais être considéré comme définitivement enterré. Et dans ce climat d'attente, le village vivait avec un paradoxe. Soulagé d'avoir obtenu une vérité, mais hanté par la possibilité que d'autres vérités enfouies surgissent encore. L'air lui-même semblait chargé de cette tension. Dans le silence des nuits, quand le vent passait entre les champs de maïs, certains juraient entendre un chuchotement, comme une voix qui disait « Le passé n'est jamais mort, il attend ». Les semaines s'égrenèrent, et le nom de Claire Dubois cessa peu à peu de remplir les colonnes des journaux. Pourtant, dans le village, son absence continuait de peser comme une présence. Les habitants, prisonniers d'un paradoxe, oscillaient entre la volonté d'oublier et le besoin maladif de raconter encore et encore la même histoire. Dans les champs, les agriculteurs chuchotaient en travaillant, comme si la terre elle-même leur rappelait cette nuit de juillet 1945. L'air, chargé d'odeurs, de paille et de poussière, semblait conserver une mémoire que nul vent ne pouvait dissiper. À la mairie, un projet commença à prendre forme. Ériger une plaque commémorative à la mémoire de Claire. Mais cette initiative divisa le village. Certains la jugeaient nécessaire comme un acte de reconnaissance envers la victime, un moyen de transformer la douleur en mémoire officielle. D'autres la considéraient comme une plaie inutile, une manière de graver dans la pierre un souvenir qui empêchait de tourner la page. Les débats s'envenimèrent lors des conseils municipaux, révélant combien le meurtre continuait d'envenimer les consciences, même après l'élucidation. La famille Dubois, quant à elle, se tenait en retrait de ces querelles. Pour Marianne, la sœur survivante, l'essentiel n'était pas une plaque ou une cérémonie, mais le fait que la vérité ait enfin été dite à haute voix. Elle passait de longs après-midi au cimetière, assise près de la tombe de Claire, comme pour rattraper les conversations perdues. Parfois, elle lisait à voix basse quelques lignes de la Bible familiale, pas celle tachée de sang, conservée comme pièce à conviction, mais une autre, intacte. Ces murmures se mêlaient au bruissement du vent dans les cyprès, créant une intimité que nul regard extérieur ne pouvait troubler. En prison, Étienne R. s'enfonçait dans une routine mécanique. Ses geôliers le décrivaient comme un vieil homme éteint. Mais les psychologues pénitentiaires notaient par instant une lueur étrange dans ses yeux, une résistance obstinée à l'idée de se reconnaître pleinement coupable. « Je ne suis pas un meurtrier », répétait-il parfois. « C'était un accident. » Ces mots, lancés comme un refrain, semblaient plus destinés à lui-même qu'à quiconque. Pourtant, chaque fois qu'il les prononçait, le silence de sa cellule lui renvoyait l'écho glacial de la contradiction. L'accident n'explique pas 40 ans de silence. Le dossier Dubois, désormais clos judiciairement, continuait néanmoins de circuler dans les milieux criminologiques. Dans les universités, on organisait des conférences sur l'affaire. Les étudiants écoutaient, fascinés, l'histoire de cette Bible devenue la gardienne d'une vérité. Certains chercheurs comparaient cette affaire à d'autres cold cases résolus par l'ADN, citant des exemples aux États-Unis, en Allemagne, en Italie. Mais tous s'accordaient sur un point. La force symbolique du cas Dubois dépassait les frontières scientifiques. C'était l'incarnation de cette idée terrifiante que les objets, plus fidèles que les hommes, conservent la mémoire des crimes. Dans le village, une génération nouvelle grandissait. Les enfants, qui n'avaient jamais connu Claire, vivaient entourés des récits la concernant. Pour eux, elle n'était pas seulement une victime, mais une légende, une figure presque mythologique dont le destin était raconté lors des veillées. Certains disaient avoir vu son ombre près de la maison familiale, d'autres juraient avoir entendu un cri dans la nuit, écho lointain du drame. Le meurtre s'était transformé en mythe local, nourrissant autant la peur que la fascination. Les cafés demeuraient les théâtres de ces discussions interminables. Chaque soir, les anciens répétaient la même formule « Le sang ne ment pas ». Cette phrase, devenue un adage, se transmettait de bouche en bouche. Elle résumait à elle seule la leçon terrible de l'affaire. Elle disait la puissance de la vérité biologique, mais aussi la faiblesse des hommes, incapables de parler quand il le fallait. Elle devenait une maxime autant qu'une condamnation collective. Et pourtant, derrière ce vernis de certitude, certains restaient troublés. Un vieil enquêteur, aujourd'hui à la retraite, confia lors d'une émission radio qu'il n'avait jamais été totalement convaincu par les aveux d'Étienne. Oui, l'ADN l'incriminait. Oui, les preuves étaient irréfutables. Mais dans les détails du récit, quelque chose sonnait faux. Une incohérence persistait. La force du coup, la mise en scène du corps, l'absence totale de réaction de panique crédible. Il se demandait s'il n'y avait pas eu un complice, un témoin silencieux, quelqu'un qui, ce soir-là, avait su plus qu'il ne l'avait jamais dit. Ses doutes, même minoritaires, suffisaient à rallumer les braises. Car un mystère, même partiellement résolu, conserve toujours une part d'ombre. Le village commençait à se demander si la vérité révélée n'était pas qu'une partie du tableau. Étienne avait-il tout dit ? La colère seule pouvait-elle expliquer la brutalité du meurtre ? Et pourquoi avait-il fallu 40 ans pour que la vérité émerge ? Ces questions, suspendues, empêchèrent la plaie de cicatriser complètement. Dans les nuits calmes, lorsque la lune baignait de lumière blafarde les façades de pierre, certains habitants affirmaient entendre un bruissement, comme si les pages de la Bible tachée continuaient de se tourner toutes seules, révélant des secrets que personne n'avait encore lus. Cette image, mi-poétique, mi-terrifiante, hantait les imaginaires, car au fond, le crime de 1985 n'était pas seulement une histoire de sang et de justice. Il était devenu une allégorie du temps qui parle, du passé qui refuse de mourir. Ainsi, le village vivait désormais avec deux réalités parallèles, celle officielle d'un meurtrier condamné et d'une vérité établie, et celle, plus diffuse, d'une mémoire collective hantée par des doutes et des symboles. Entre ces deux réalités, la vie continuait, bancale, sous le poids invisible d'un cri qui ne s'était jamais tout à fait éteint. Dans les saisons qui suivirent le procès, le village sembla vivre comme suspendu dans une étrange atmosphère, entre soulagement et inquiétude diffuse. Les marchés se tenaient toujours, les enfants continuaient à courir dans les ruelles, les cloches de l'église sonnaient chaque dimanche. Mais sous cette apparente normalité, un voile invisible recouvrait les gestes quotidiens. On disait que l'affaire Dubois avait changé la façon dont chacun regardait son voisin, non plus avec la naïveté d'autrefois, mais avec la méfiance silencieuse née de la certitude que le mal pouvait se cacher derrière les visages les plus ordinaires. Marianne, la sœur de Claire, devenait malgré elle la gardienne de cette mémoire. Invitée dans des conférences, elle racontait son combat pour la vérité, son attente interminable et l'absurde ironie d'un objet religieux transformé en preuve judiciaire. Ces mots, empreint de gravité, frappait les auditeurs comme un coup de marteau. Elle répétait souvent « La justice n'efface rien, elle ne fait que nommer ce que l'on savait déjà au fond de nous. » Cette phrase, simple mais implacable, laissait toujours un silence lourd derrière elle, comme si chacun se sentait personnellement visé. La maison des Dubois, toujours inhabitée, commençait à se délabrer. Ses volets pendaient, ses murs se fissuraient, mais nul n'osait la raser. Elle était devenue un monument involontaire, un rappel figé dans la pierre. Les jeunes du village la regardaient avec une fascination morbide, s'aventurant parfois jusqu'au seuil, mais jamais au-delà, car il y avait cette conviction irrationnelle que les murs retenaient encore un écho, que le parquet conservait l'empreinte du drame. Une journaliste décrivit la demeure comme une crypte à ciel ouvert, où la mémoire s'attarde comme une odeur persistante. Dans les couloirs des universités, l'affaire Dubois circulait comme une parabole moderne. On y voyait la démonstration de l'endurance du crime, la preuve que rien n'est jamais tout à fait effacé. Mais pour les habitants, cette analyse savante ne rendait pas compte de la réalité. Vivre au quotidien dans un lieu où chaque coin de rue semblait vous rappeler que la vérité peut dormir 40 ans avant de frapper à